Chapitre 19. Le lendemain, une autre scène eut lieu à Longbourn. Monsieur Collins fit sa déclaration en forme. Devant partir le samedi suivant, il résolut de ne point tarder davantage, et comme il n'éprouvait ni la timidité ni la défiance de soi-même qui eussent pu rendre pour lui cette démarche embarrassante, il s'en acquitta avec toute la dignité et tout le cérémonial qu'il croyait être de rigueur dans une pareille affaire. Trouvant dans le salon, après le déjeuner, Madame Bennet, Elisabeth et une de ses jeunes sœurs, il parla ainsi à la mère. « Puis-je espérer, madame, que vous plaiderez ma cause auprès de votre charmante Elisabeth, lorsque je sollicite l'honneur de l'entretenir un moment en particulier ?» Elisabeth rougissait et perdait toute contenance lorsque sa mère prit la parole. « Oh oui, assurément, je suis sûr que Lizzie en sera très flattée. Elle ne peut avoir nulle objection à faire. Allons, Kitty, montez avec moi. » Et prenant son ouvrage, elle sortit précipitamment. Mais Elisabeth s'écria « Ma chère maman, ne vous en allez pas, je vous supplie. Monsieur Collins m'excusera. Il ne doit rien avoir à me dire que tout le monde ne puisse entendre. C'est moi qui vais sortir d'ici. » « Allons, Lizzie, quel enfantillage ! Restez !» Et voyant Elisabeth toute prête à s'échapper, elle ajouta « Lizzie, restez donc, je le veux. Écoutez ce que va vous dire Monsieur Collins. » Elisabeth ne voulut pas désobéir à un tel ordre. Et un moment de réflexion l'ayant persuadée que le mieux serait de terminer promptement cette affaire, elle se rassit et essaya par un grand air d'application à son ouvrage de cacher un mélange d'embarras et d'envie de rire qu'elle éprouvait. Madame Bennet et Kitty s'étant retirées, il commença ainsi. « Croyez, ma chère mademoiselle Elisabeth, que votre modestie, loin de vous nuire, ajoute un nouvel éclat à vos perfections. Sans cette légère résistance, vous seriez moins aimable à mes yeux, mais permettez-moi de vous assurer que j'ai obtenu de votre respectable mère l'autorisation de vous déclarer mes sentiments. Le but de mon discours doit vous être connu. Cependant, votre délicatesse naturelle pourrait vous engager à quelque dissimulation. Mes attentions pour vous ont été trop marquées pour pouvoir échapper à votre pénétration. Presque à mon entrée dans cette maison, je vous ai choisi pour ma compagne, mais avant de céder à l'impétuosité des sentiments que vous m'inspirez à si juste titre, je dois vous dire quelles sont les raisons qui m'engagent à me marier et pourquoi je viens dans Hertfordshire chercher une femme. » Aux sentiments impétueux du grave Monsieur Collins, Elisabeth fut si près d'éclater de rire qu'elle n'osa entreprendre d'articuler un seul mot. Il continua donc ainsi. « Les raisons qui m'engagent à me marier sont, premièrement, qu'un ministre, aussi aisé que je le suis, doit à ses paroissiens l'exemple du mariage. Secondement, que j'en attends une augmentation de mon bonheur. Ma troisième raison, que peut-être je devais nommer la première, c'est que la noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma patronne me l'a fortement recommandée. Elle a daigné deux fois me donner à ce sujet ses avis. Et la veille de mon départ d'Hunsford, avant de se mettre au jeu, comme Madame Jenkinson a rangé le tabouret de Mademoiselle de Brow, elle me dit « Monsieur Collins, il faut vous marier. Un ecclésiastique dans la situation où vous êtes doit se marier. Faites un choix. Prenez une femme bien née, par rapport à moi et à vous. Que ce soit une jeune personne active et qui sache se rendre utile. » Qu'elle ne soit pas élevée dans de grands airs, mais au contraire instruite à tirer tout le parti possible d'un petit revenu. Voilà mon avis. Trouvez donc aussitôt que vous le pourrez une femme comme celle-là. Amenez-la-moi à Hunsford, et je la recevrai. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous faire observer ici que je ne regarde point la connaissance et les bontés de Lady Catherine de Brow comme un des moindres avantages que j'ai à vous offrir. Vous trouverez ses manières affables au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et je pense que votre esprit, votre vivacité lui plairont, modérés surtout par le respect et le silence que son rang vous imposera. En voilà assez sur mes intentions à l'égard du mariage. J'ai à vous dire maintenant pourquoi Langbourne attire mes regards de préférence à mon propre voisinage, où il y a, je vous assure, beaucoup de femmes aimables. Le fait est que, devant hériter de cette terre après la mort de votre très honoré père, qui, Dieu aidant, peut encore vivre de longues années, je n'eusse pas été satisfait de ma conduite si je ne m'étais décidé à prendre une de ses filles pour épouse, afin que cette perte leur soit moins douloureuse quand l'événement aura lieu. Tel a donc été mon motif, ma belle cousine, et je me flatte qu'il ne diminuera pas votre estime pour moi. À présent, il ne me reste plus qu'à vous exprimer dans les termes d'un cœur vraiment épris toute la violence et toute la durée de mon attachement. Quant à la fortune, j'y suis parfaitement indifférent et n'en parlerai même pas à votre père, sachant d'avance qu'il ne peut rien vous donner, puisque toutes vos prétentions se bornent à une somme de 10 000 livres sterling dont vous ne pourrez jouir qu'après la mort de votre mère. Sur ce point, mon silence sera toujours le même, et croyez que quand nous serons unis, nul reproche peu généreux ne sortira de ma bouche. Ne pouvant davantage différer de l'interrompre, « Vous êtes un peu prompt, monsieur, » dit-elle. « Vous oubliez que je ne vous ai pas encore dit un seul mot, laissez-moi du moins vous répondre. Recevez, je vous prie, les remerciements de l'honneur que vous me faites. Je sens tout le prix des avantages que vous m'offrez, mais je ne puis que les refuser. » Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais, reprit monsieur Collins, que toute femme se fait une loi de rejeter d'abord les hommages de l'homme qu'en secret elle préfère, et que souvent même ce refus est réitéré plus d'une fois. Par conséquent, bien loin d'être découragé par ce que vous venez de me dire, je conserve le doux espoir de vous conduire avant peu au temple de l'Hyménée. « Vraiment, monsieur, s'écria Élisabeth, après ma déclaration, votre espoir me paraît singulier. Je ne suis point, je vous assure, de ces femmes, s'il en est comme vous le dites, assez hardies pour rechercher, au risque de leur bonheur, le plaisir toujours incertain d'être demandé deux fois. Mon refus est très sérieux, vous ne sauriez faire mon bonheur, et je suis bien convaincu que je ne pourrai jamais faire le vôtre. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, j'ai tout lieu de croire qu'elle n'approuverait pas votre choix. » S'il était vrai, dit monsieur Collins très gravement. Mais non, je ne puis supposer que Lady Catherine vous jugeât si défavorablement. Et soyez bien persuadé que lorsque j'aurai l'honneur de la revoir, je lui vanterai beaucoup la modestie, l'économie, qui s'unissent chez vous à tant d'autres aimables qualités. En vérité, monsieur, tout éloge de moi sera inutile. Faites-moi la grâce de le croire. Je souhaite votre bonheur et la prospérité de votre fortune, pour lesquelles je fais tout ce que je puis, en refusant votre main. Par la demande de ma main, vous avez rempli le devoir que votre seule délicatesse vous imposait à l'égard de ma famille, et quand le moment viendra, vous pourrez, sans aucun scrupule, prendre possession de la terre de Langbourne. Considérez donc cette affaire comme absolument terminée. » Et se levant aussitôt, elle sortait de l'appartement, si M. Collins n'eût repris, « Quand j'aurai le plaisir de vous en reparler, j'espère obtenir une réponse plus favorable que celle dont vous venez de m'honorer. Mais je suis loin de vous accuser de cruauté. Je connais les femmes, et je crois même que pour une première demande, vous m'avez encouragé autant que la délicatesse de votre sexe le permet. » « De bonne foi, monsieur Collins, répartit-elle vivement, vous confondez toutes mes idées si ce que je viens de vous dire vous paraît un encouragement. Quel terme faut-il employer pour vous exprimer mon refus ? Vous me permettrez, ma belle cousine, de ne voir dans votre refus que de vains mots. J'ai quelques raisons de penser ainsi. Je ne puis imaginer que je sois en aucune manière indigne de vous, ou que l'établissement que je vous offre ne soit pas très avantageux. Mon état, mes liaisons avec la famille de Brough, ma parenté avec la vôtre militent en ma faveur, et vous devriez aussi considérer que malgré tous vos charmes, il n'est nullement certain que jamais on vous fasse une pareille demande. La modicité de votre dot détruira malheureusement tout l'effet que pourrait d'ailleurs produire votre beauté et vos vertus. De tout cela, il m'est permis de conclure que vous ne m'avez pas parlé sérieusement, et je me plais à ne trouver dans votre refus que le désir d'enflammer mon amour par l'incertitude, selon l'usage constant des femmes de bon ton. Je vous assure, monsieur, que mes prétentions au bon ton ne vont point jusqu'à vouloir tourmenter un honnête homme. En croyant à ma sincérité, vous me rendrez plus de justice. Encore une fois et cent fois, je vous remercie du choix dont vous m'avez honoré. En profiter m'est impossible. Tous mes sentiments s'y opposent. Puis-je parler plus clairement? Ne me croyez pas maintenant une femme du bon ton, destinée à vous chagriner, mais une personne raisonnable qui vous parle à cœur ouvert. Toujours charmante, s'écria-t-il d'un air qu'il croyait être de la plus fine galanterie. Et je me persuade que ma demande, lorsqu'elle sera sanctionnée par l'autorité de vos parents, ne peut manquer d'être acceptée. Élisabeth vit qu'il fallait renoncer à le convaincre et se retira sans répondre, résolue, s'il persistait à prendre tout refus venant d'elle pour un encouragement, de recourir à son père, qui s'expliquerait avec lui d'une manière positive et dont le langage, du moins, ne pourrait être attribué à la coquetterie affectée d'une femme de bon ton.